France Culture.
Le 24 février dernier a marqué les 3 ans de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et en 3 ans, les discours et les prises de décision se sont multipliés afin de diffuser et de faire respecter un mot d'ordre, celui de l'entrée dans une ère nouvelle dite de l'économie de guerre. Dès le mois de juin 2022, l'expression était revendiquée par Emmanuel Macron qui persiste et signe le 11 avril 2024. Il était alors en visite à Bergerac.
Cette confiance, elle s'inscrit dans un contexte inédit. Et je pense que nous devons tous, à cette occasion, et dans les temps qui viennent, en tirer les conséquences. Celle aussi d'une entrée dans une économie de guerre, dans laquelle, je le crois, nous allons durablement devoir nous organiser. C'est-à-dire aussi une économie dans laquelle il faudra aller plus vite, réfléchir différemment sur les rythmes, les montées en charge, les marges, pour pouvoir reconstituer plus rapidement ce qui est indispensable pour nos forces armées, pour nos alliés ou pour celles et ceux que nous voulons aider. Une économie, au fond, dans laquelle on ne peut plus vivre au rythme et avec la grammaire d'il y a même un an. Tout a changé. Et ce changement, ce n'est pas simplement l'État ou les États qui peuvent en subir les conséquences. Ce sont tous les acteurs de la filière, avec évidemment des commandes supplémentaires, beaucoup plus d'ambition, mais une exigence qui sera supplémentaire pour aller plus vite, plus fort, au moindre coût, pour innover plus rapidement.
On a triplé la production de canons César. On a d'ores et déjà doublé la production justement d'obus. On a réussi à accélérer, à diviser par 2 les délais sur les Mistral. Il y a déjà à marche forcée une transformation en profondeur de notre industrie. Comment on optimise nos financements? Comment on simplifie les procédures pour aller plus vite? Comment on mobilise mieux les financements européens? Comment, avec les projets export, on donne plus de visibilité au carnet de commandes pour aller plus vite? Donc, c'est pas demain l'économie de guerre. C'est là.
Alors qu'est-ce qui a changé depuis? Comment le tissu industriel de l'armement, mais plus globalement les économies toutes entières des pays concernés et notamment leur capacité à financer un tel effort, ont-ils été transformés? À travers ce bilan, c'est tout l'enjeu de savoir ce qu'est réellement une économie de guerre et surtout quelles sont les conséquences qui se posent à nous. Et ce d'autant plus qu'aujourd'hui, un nouveau virage semble être sur le point de s'amorcer à l'aune du rapprochement entre les États-Unis de Donald Trump et la Russie de Vladimir Poutine et de la façon dont l'Europe entend remettre à plat sa stratégie diplomatique mais aussi économique. Investissement, arbitrage budgétaire, adaptation à de nouvelles contraintes. En Europe comme en Russie et en Ukraine, l'heure du bilan a sonné et potentiellement avec elle celle du tournant. Retour donc dans cette table ronde, d'entendez-vous l'écho sur 3 ans mais aussi une histoire bien plus longue pour comprendre ce que la guerre fait à l'économie et inversement. Une émission programmée et préparée par Bruno Barada, réalisée par Noé Mignard et mise en onde aujourd'hui par Paul Guigue.
La Russie est une menace pour les Européens si elle continue à être aussi prédatrice.
Emmanuel Macron, le 22 février 2025.
Et en fait, elle l'est. On doit monter la posture, on doit dépenser davantage, mieux, en Européens ensemble, et prendre très rapidement des décisions, au niveau national et européen, pour avoir une Europe plus autonome, plus forte, parce que c'est notre sécurité qui est en jeu. On va devoir réinvestir encore plus, Français et Européens. Je sonne un peu le tocsin ce soir, c'est pour ça que je voulais vous parler et puis répondre à toutes vos questions, parce que j'ai la conviction qu'on rentre dans une ère nouvelle. Et elle va nous imposer des choix. Et donc on va devoir aussi revisiter nos choix budgétaires, nos priorités nationales dans ce monde qui commence.
Ursula von der Leyen, le 19 février 2025.
L'Europe devient plus forte, car nous comprenons tous l'importance d'une dépense sécuritaire importante et d'avoir la capacité à nous défendre. Regardez l'investissement dans la sécurité et la défense. Il y a eu environ 280 millions d'euros l'année dernière. Cette année, il y a déjà 350 millions d'euros. Il y a donc une augmentation. Nous devons dépenser plus et dépenser mieux afin de consolider notre base industrielle de défense.
Et 3 invités sont avec nous aujourd'hui autour de cette table ronde d'actualité. Fanny Coulon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférence en économie à Sciences Po Grenoble. Grenoble où vous vous trouvez actuellement, vous serez donc à distance avec nous tout au long de cette émission. Julien Malizard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes titulaire de la chaire économie de la défense à l'IHEDN, l'Institut des hautes études de défense nationale. Et enfin, Julien Vercueil, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Merci d'être avec nous tous les trois. Julien Vercueil, vous êtes économiste, professeur des universités en économie et vice-président de l'Institut national des langues et civilisations orientales. Alors, il y a eu le choc de 2022 avec l'idée de s'adapter à une donne nouvelle. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, comme Ursula von der Leyen, on l'entendait à l'instant, évoquent tous les deux un tournant pour l'un, un changement d'air pour l'autre. À quoi est dû ce nouveau discours, Julien Malizard ?
En fait, il y a plusieurs éléments qui se conjuguent. Il y a évidemment ce qui se passe en Ukraine avec l'invasion menée par la Russie, qui conduit en fait un certain nombre de pays européens à réviser à la hausse leur budget de défense. Certains de manière très forte, d'autres plus limitées. Évidemment, plus on est proche de la Russie, plus on aura tendance à augmenter rapidement ses dépenses de défense. Ça, c'est un premier aspect qui, d'ailleurs, existe depuis 2014, parce que la guerre en Ukraine, c'est pas depuis 2022, c'est depuis 2014, et l'invasion de la Crimée, ce qui se passe dans le Donbass. Donc, il y a déjà des pays qui ont anticipé tout cela. Et puis, il y a un deuxième aspect qui est vraiment dans l'actualité brûlante, qui est les déclarations du président américain, fait planer un doute sur la pérennité de l'OTAN, de l'alliance qui garantit la sécurité des membres de l'Union européenne notamment, enfin pour une grande partie d'entre eux. Et dans le même temps, président Trump qui a dit qu'il fallait augmenter le budget de la défense à 5% du PIB, sachant qu'aujourd'hui on est à peu près en moyenne aux alentours de 2%. Donc on voit bien que budgétairement parlant, il y a une marche énorme. Et il n'est pas certain que même si on atteignait les 5%, que ça satisferait pleinement le président américain. Donc il y a un certain nombre de doutes qui vient renforcer en fait l'idée qu'il va falloir faire différemment, et c'est bien le sens du propos que vous avez présenté, pour justement assurer une sécurité qui dépend de moins en quelque sorte de dépenses, d'acteurs étrangers, en particulier américains.
Julien Vercueil, on entendait Emmanuel Macron signaler que nous entrions donc dans une ère nouvelle, ce qui allait impliquer des choix face à une Russie qui est véritablement prédatrice. Il l'a dit, dans quelle mesure ce tournant-là, ce nouveau discours, il est aussi lié à une forme de prise de conscience de ce que peut la Russie, de sa capacité à résister aussi. Est-ce qu'on se rend compte de quelque chose qu'on n'avait pas forcément prévu? C'est peut-être le fait qu'elle tienne d'un point de vue économique et financier aussi. Est-ce que ça rentre dans le nouveau calcul que l'on fait vis-à-vis de ce que ce conflit implique?
C'est possible. C'est vrai que il y a une forme d'adaptation des Européens à l'adaptation de la Russie, liée à sa capacité à résister malgré une érosion objective de son économie, à tout ce qui à tout ce qui a été entraîné par son invasion de l'Ukraine. Mais je pense quand même que le principal vecteur qui explique ces changements de ton et de pied de la part des dirigeants occidentaux, c'est la distanciation, si ce n'est la rupture, au moins pour l'instant la distanciation que l'on observe de la part de Donald Trump vis-à-vis des Européens et vis-à-vis de l'Ukraine. Vis-à-vis de l'Ukraine, c'est quelque chose qui est extrêmement préoccupant parce que l'aide américaine était déterminante pour maintenir à flot à la fois l'économie et le complexe militaire industriel et la capacité de défense de l'Ukraine. Or, si cette aide est remise en cause de manière extrêmement forte et à une échelle importante, comme les déclarations semblent le laisser présager, ça voudrait dire qu'un déséquilibre se créera sur le terrain, déséquilibre à la fois économique, financier et militaire. Et que donc l'Union européenne va être en nécessité d'essayer de combler une partie de ce déséquilibre. Et le deuxième élément, c'est la nature vindicative de la distanciation de Donald Trump vis-à-vis des Européens eux-mêmes. Où là aussi, on voit qu'avec les dernières déclarations, notamment sur le commerce et les taxes douanières qui sont projetés, si ce n'est pas encore mis en œuvre, mais projetés et annoncés, on voit qu'il y a aussi une conflictualité commerciale qui va émerger dans la relation entre les États-Unis et l'Union européenne. Donc en fait, je pense que c'est plutôt cet aspect-là, ce retournement radical qui semble se dessiner, même si on ne peut pas présager de ce qui se passera dans 3 ou 4 mois, qui explique ces déclarations récentes.
Donc on le voit, il y a ce contexte particulièrement conflictuel, on va dire, avec les États-Unis, ce qui est pour le coup, véritablement une nouvelle donne. Je ne sais pas si on pouvait s'y attendre, mais en tout cas, ça rompt une certaine histoire aussi, une certaine habitude de ces liens-là transatlantiques. Fanny Coulon, on a beaucoup parlé de l'idée d'un tournant, de l'idée d'une nouvelle donne. Ursula von der Leyen le répète, elle l'a dit, c'est un message qu'elle cherche à faire passer, notamment en marge de la conférence de Munich pour la sécurité. Tout ça donne le sentiment que l'entrée, finalement, de l'économie, des économies européennes dans une économie de guerre ne fait que commencer. Pourtant, on pourrait se dire qu'au bout de 3 ans, les dépenses de défense de l'Union européenne ont augmenté tout de même de 31%. Ça correspond à 1,9% des PIB cumulés des États membres. Dans quelle mesure, Fanny Coulon, on peut bel et bien se dire que, malgré ce changement assez radical qu'on vient d'évoquer, nous sommes, nous, économie européenne, déjà rentrés dans des formes d'économie de guerre?
Oui, bah, le concept d'économie de guerre, en fait, il était très utilisé pendant la Première Guerre mondiale. Enfin, c'est un concept ancien qui correspond en fait à des mesures exceptionnelles financières, commerciales, en temps de guerre. Mais cette expression est assez justement utilisée aujourd'hui parce que on est dans une situation où on doit de toute façon augmenter très fortement la production d'armement, ne serait-ce que pour donner des armements à l'Ukraine. Donc il y a un besoin d'augmentation de la production d'armement qui est très forte. Et puis c'est vrai qu'on est aujourd'hui dans une situation géopolitique totalement bouleversée. La position de Trump change complètement la donne. Il faut se rappeler quand même que les États-Unis, jusqu'à une période récente, exerçaient des pressions pour limiter la dépendance stratégique de l'Europe à la Russie, notamment dans le cadre des menaces de sanctions contre, par exemple, le gazoduc Nord Stream 2. Donc, c'est un renversement total de la position américaine qui augmente encore la nécessité d'augmenter les cadences de la production d'armement, de prioriser la production des obus, des bombes, des munitions, etc., pour renforcer les capacités de défense européennes.
Julien Vercueil, sur cette tension-là, et qui, on le comprend, redéfinit finalement ce qu'est une économie de guerre, ou au moins un effort de guerre, sur ce rapprochement donc entre Vladimir Poutine et Donald Trump. On apprenait ce matin que la Russie avait proposé la reprise, notamment, du trafic aérien entre États-Unis et Russie. Court aussi l'idée d'une potentiel rapprochement économique ou de la levée de certaines sanctions, même si rien n'est définitif et rien n'est fixé. Dans quelle mesure ce rapprochement-là entre Trump et Poutine, il est aussi une façon de considérer une forme de bulle d'air, ou en tout cas d'horizon économique pour Poutine et de fait la Russie? Est-ce que c'est cela qui se joue aussi dans ce rapprochement, au-delà de l'issue même du conflit?
Pour l'instant, je pense qu'il est un peu tôt pour avoir une telle lecture de la situation. Je pense que ce qui est le plus important pour Vladimir Poutine à l'heure actuelle, c'est la forme de reconnaissance qu'il obtient dans la situation actuelle avec Donald Trump. C'est-à-dire que le fait que son pays, qui était un paria, désigné comme l'agresseur, ayant été désigné par l'Assemblée générale des Nations Unies comme l'agresseur, qui lui enjoint de retirer ses troupes, chose qu'il ne fait pas, ayant lui-même des accusations de crimes de guerre, tout d'un coup se retrouve, d'une certaine manière, réinstallé à une position éminente sur la scène internationale par Donald Trump. Et je pense que c'est ce qu'il attendait. C'est la première étape des gains qu'il espérait de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis. Il n'est pas complètement certain, d'une part, que le rapprochement économique passant par la reprise éventuelle des vols ou d'autres canaux soit, d'un point de vue macroéconomique central, je pense que ce n'est pas. Les relations économiques entre les États-Unis et la Russie n'étaient pas des relations extrêmement importantes pour la Russie. Donc on est plus dans l'ordre du symbolique, mais le symbolique est important. Et là, véritablement, la manière dont le retournement de Donald Trump remet sur le devant de la scène la Russie est extrêmement dommageable pour tous ceux qui avaient été envisagés par le G7, les pays européens, avec l'administration Biden auparavant. C'est-à-dire qu'on est dans un renversement complet par les États-Unis de la posture qui était la leur avant Donald Trump. Et c'est ça qui est le principal acquis de Vladimir Poutine aujourd'hui.
Alors Julien Malizard, on ne parle pas forcément des mêmes ordres de grandeur, mais il faut dire que de son côté, l'Europe s'organise, les États membres aussi tentent de faire front. On a parlé de cette fameuse conférence de Munich, puis de la réunion de la plupart des dirigeants des États membres le 20 février à l'Élysée à Paris pour tenter de mettre en place une stratégie cohérente face à ce bouleversement-là. Il y a un autre bouleversement qui est arrivé aussi à l'échelle européenne, ce sont les élections allemandes. Alors à leur mesure, c'est la raison pour laquelle je disais qu'on ne parle pas forcément des mêmes ordres de grandeur, mais tout de même, ces élections-là, elles ont vu Friedrich Merz arriver en tête, hein, finalement, des votes, donc relativement vainqueur, même si une coalition reste à former. Or, là où Olaf Scholz avait plutôt tendance à craindre l'escalade avec la Russie, il refusait d'entendre parler d'envoi de troupes au sol ou de livraison de missiles longue portée Taurus en Ukraine, Friedrich Merz semble un petit peu plus ouvert, on va dire, sur ce sujet-là, plus décidé à intervenir. Est-ce que ça pourrait aussi constituer un changement, même si on se doute bien qu'encore une fois, l'Allemagne ne décide pas seule et n'a pas les mêmes moyens que les États-Unis. Mais tout de même, est-ce que ça pourrait représenter une forme d'inflexion, au moins en termes, ne serait-ce que d'envoi de matériel?
Alors ça va forcément changer quelque chose, parce que il y a un enjeu de coordination qui était un peu grippé, semble-t-il, entre le président de la République, Emmanuel Macron, et le chancelier Scholz. Et là, apparemment, on semble s'installer un dialogue qui apparemment serait plus simple, en tout cas, pour permettre un certain nombre de choses. Après, il ne faut pas minorer le fait qu'aujourd'hui, en Europe continentale, l'Allemagne, grâce notamment à son fameux plan de 100 milliards, est le pays qui dépense le plus. Donc ils font déjà beaucoup. Ils ont quasiment doublé leur budget par rapport à la période de 2014. Donc on est ici sur quand même quelque chose d'assez massif, alors que dans le même temps, c'est plus de 25% pour la France. Donc effectivement, il y aura forcément un rapport qui va changer de ce point de vue-là. On peut aussi rajouter la Pologne, qui est dans un cas un peu proche aussi, puisque on est passé quasiment au début de la guerre à 2%, aujourd'hui quasiment 5% du PIB dans la défense, avec un pays qui est historiquement plus proche de l'Ukraine et avec un soutien qui est continu. Donc il y aura quand même, à mon avis, quelque chose qui va changer dans la coalition européenne. Le problème majeur, et c'est un point qui a été évoqué très rapidement par Fanny aussi, c'est qu'il y a un souci dans le soutien qu'on a apporté à l'aide à l'Ukraine notamment, c'est que en moyenne, les Européens ont plutôt accompagné l'Ukraine dans de l'aide économique, là où les Américains ont plutôt fait de l'aide militaire, avec des dons de matériel en particulier. Aujourd'hui, si effectivement les Américains se retirent définitivement, et comme le président Trump a pu le souligner, en tout cas il souffle un peu le chaud et le froid, à un moment donné, ce sera aux Européens de compenser. Et globalement, les volumes de production en Europe ont augmenté, il y a eu des augmentations de cadence, ça a été notamment dit par le président de la République dans le passage que vous avez passé, mais on peut imaginer que c'est globalement insuffisant par rapport aux besoins de l'Ukraine. Et donc là, il y a un sujet, on va dire, d'adaptation industrielle qui va nécessiter effectivement quelque chose qui se passe en Allemagne, mais plus globalement à l'échelle de toute l'Europe.
Julien Vercueil, juste un petit point, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ce rapprochement entre Poutine et Trump. Est-ce que ça veut dire pour autant que les États-Unis tournent complètement le dos à l'Ukraine? Est-ce qu'il y a un peu cette stratégie de jouer sur les deux tableaux? Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un désintérêt total des États-Unis vis-à-vis, ou même d'une renonciation à certains engagements pris vis-à-vis de l'Ukraine? C'est toujours très compliqué de suivre les déclarations puis les retours sur... Voilà. Mais aujourd'hui, qu'en est-il finalement de cette acceptation, on va dire, de Trump aussi de ce qui avait été construit en termes de lien avec l'Ukraine?
Non, effectivement, il ne s'agit pas de tourner le dos à l'Ukraine. D'abord parce que l'Ukraine est quand même au centre de cette question-là. Et la promesse principale de Donald Trump, c'était d'arriver rapidement à une paix. Il entend pouvoir le faire de manière bilatérale, directement avec Vladimir Poutine, mais il est évident qu'il faut tenir compte aussi de l'intérêt de l'Ukraine dans cette situation, et il faudra également tenir compte des Européens. Donc non, il n'y a pas de détournement complet. En revanche, je crois qu'il y a un changement de posture vis-à-vis de l'Ukraine, c'est-à-dire que Donald Trump a également fortement rappelé le fait qu'il souhaitait que les États-Unis sortent d'une certaine manière gagnant de cette relation avec l'Ukraine, et donc il s'intéresse fortement, comme on l'a vu avec le protocole d'accord qui a été présenté hier, aux matières premières ukrainiennes comme une sorte de moyen pour les États-Unis rentrer dans les fonds qu'ils auraient avancés.
C'est ça, c'est vraiment ça la logique, rentrer dans leurs frais, notamment grâce à cette exploitation de minerais qui est très, très importante. Julien Malizar, allez-y, puis je crois que Fanny Coulon va également réagir.
Juste un petit point, parce qu'en fait, beaucoup de dons qui ont été faits à l'Ukraine par les États-Unis, c'est aussi des commandes qui ont été passées à l'industrie américaine. Il y a une partie qui a été déstockée, mais il y a aussi des commandes. Et c'est des commandes qui ont été passées auprès d'industriels américains. Et donc, on peut, en fait, ils ont soutenu leur propre industrie d'armement par ces dons massifs. Et donc, en fait, c'est aussi une moyenne de façon de rentrer dans ces frais quelque part. C'est-à-dire que ça, au lieu de... Enfin, ça génère de l'activité sur le territoire américain et pas ailleurs. Donc là, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Et les cartes montrent que c'est aussi dans des États, en particulier au Texas, qui votent très largement pour Trump et qui pourraient, à l'inverse, si les dons ne perdurent pas, perdre cette manne, quelque part, liée à l'aide à l'Ukraine.
Et on retrouve là l'importance des discours et des messages envoyés aussi. Tout dépend aussi de comment on présente les choses. Exactement. De fait. Fanny Coulon, vous souhaitiez réagir?
Oui, il y a une question de rapport de force. Visiblement, Donald Trump est très intéressé par les terres rares ukrainiennes et se montre beaucoup plus conciliant maintenant que l'accord a été signé pour, a priori, ça serait un fonds d'investissement avec un pourcentage de propriété américain sur l'exploitation des minerais stratégiques et notamment des terres rares en Ukraine. Donc, On a la promesse, a priori, il semble que les États-Unis continuent à livrer de l'équipement militaire pour le moment et qu'on ne parle pas de lever des sanctions contre la Russie, tant qu'un accord de paix n'est pas trouvé.
Donc ça reste effectivement dans ce cadre-là bien déterminé, on va dire, aussi des relations entre États-Unis et Ukraine. Donc on le comprend, l'Europe, de fait, par ce rapprochement-là, se retrouve confrontée à au moins une redéfinition de sa stratégie, au moins diplomatique, si ce n'est économique, nous allons le voir. Voilà pour le côté, on va dire, atlantique. De son côté, il faut aussi se demander, se poser la question de savoir si la Russie, elle aussi, se trouve à un tournant après 3 ans de conflit, de comprendre comment son économie aussi a évolué, si elle lui permet ou non de continuer l'effort de guerre. Lors de sa conférence de presse du 19 décembre 2024, Vladimir Poutine s'inquiétait surtout de l'inflation qui s'était installée dans le pays.
La situation de l'économie russe dans son ensemble est normale. Nous nous développons régulièrement malgré tout, malgré les menaces extérieures et les tentatives d'ingérence. Mais oui, bien sûr, l'inflation est un signal très préoccupant. L'économie est en surchauffe et le gouvernement, autant que la Banque centrale de Russie, se sont déjà donné pour tâche de faire baisser ses taux. Et l'année prochaine, je crois que selon les diverses estimations, l'inflation devrait se situer autour de 2,5%.
Une économie en surchauffe, c'est ainsi que Vladimir Poutine a qualifié l'état de l'économie russe. Julien Vercueil, est-ce vraiment là le principal point, la principale ombre au tableau, on peut dire, économique russe? On a beaucoup parlé du fait que malgré 3 ans de guerre, la Russie connaissait un taux de croissance assez élevé, de 4,1% du PIB. C'est les chiffres qui sont tombés le 7 février dernier. Est-ce que vraiment l'inflation reste le problème principal? Et si oui, pourquoi?
L'inflation est un des problèmes. C'est un problème parce qu'elle est à 9,5. Donc vous voyez que la marche est très haute à descendre pour atteindre les objectifs du président Poutine. 9,5%, c'est un taux qui est élevé. C'est un taux qui est élevé alors que les taux d'intérêt directeurs de la Banque centrale sont de plus de 21%. Donc ce qui veut dire que c'est une inflation qui n'est pas maîtrisée par la Banque centrale. Ce qui crée d'ailleurs des dissensions qui datent d'il y a assez longtemps entre la Banque centrale et le ministère de l'économie et des finances russes. La Banque centrale ayant une vision un peu plus occidentale, je dirais, de la question de la gestion monétaire, le ministère des Finances ayant une appréciation beaucoup plus liée à la question du développement industriel et du développement de la production. Ça c'est le premier élément, c'est qu'on a une inflation qui est élevée, qui ne décroît pas, et qui n'est pas maîtrisée malgré les efforts. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que déjà c'est le vrai niveau d'inflation? Parce que nous sommes dans une économie qui, elle, peut être qualifiée, à mon avis, au sens plein du terme, d'une économie en guerre, si ce n'est une économie de guerre, et dans laquelle l'information économique devient une arme de guerre. Cela a été pris en compte tout de suite. Hein, dès le 25-26 février 2022, la Banque centrale a ordonné aux banques de second rang de ne pas publier leurs chiffres, par contre de continuer à les lui envoyer sans publier les chiffres précis. Il y a également toute une série de données statistiques et de séries statistiques qui ne sont plus disponibles, en particulier les données relatives au commerce extérieur dans le détail ne sont plus disponibles. Donc, on voit que il y a cette tendance contrôler l'information économique. Et dans ce cadre-là, ce chiffre de 9,5% peut même être considéré, et est considéré par certains économistes occidentaux, comme sous-estimé. Ce qui surestimerait la croissance économique, puisque cette croissance économique, c'est une croissance dont on retire le taux d'inflation. Donc, si le taux d'inflation est plus élevé qu'il ne l'est en réalité, ça veut dire que la croissance est plus faible. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que cette croissance est fortement tirée par la consommation des ménages, l'investissement public et les dépenses publiques. Et cette consommation des ménages, elle est soutenue notamment par une situation du marché du travail qui est très tendue avec un taux de chômage qui est très faible parce que la population active décroît. Elle a décru de 5% depuis 2013, donc c'est une décroissance qui est significative à l'échelle macroéconomique et qui fait qu'on peut détruire des emplois sans créer davantage de chômage en Russie. Ceci tire les salaires vers le haut et les salaires peuvent entraîner une boucle inflation-prix qui semble à l'œuvre aujourd'hui. Et le troisième élément qui est important à avoir en tête, c'est que une partie aussi de cette inflation est sans doute alimentée par justement cet effort de guerre financé par la manne pétrolière qui continue d'affluer en Russie, qui s'échappe beaucoup moins à cause des contrôles d'échange et à cause des difficultés de placement à l'étranger que les opérateurs russes ont aujourd'hui, et donc qui se réinvestit de manière locale beaucoup plus qu'avant, avec donc des effets inflationnistes. Et c'est ce qui explique, à mon avis, le fait que la Banque centrale ait autant de mal à juguler l'inflation.
C'est intéressant, Julien Vercueil, parce que finalement, on a un peu... On comprend l'effet de discours chez Vladimir Poutine. On a un peu ce qui fait, en se plaignant finalement de l'inflation, il souligne finalement ce qui fait aussi la croissance de la Russie.
Mais c'est exactement ce qu'il dit quand il parle de surchauffe. Le terme de surchauffe est en général positivement connoté en économie. Hein. C'est que on va trop vite, on va trop bien. Hein. En fait, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'il y a une rente pétrolière qui se réinjecte et qui crée une masse monétaire qui est excédentaire sur le territoire de la Russie. La Banque centrale essaie de juguler l'inflation, mais n'y arrive pas. Le gouvernement est obligé de financer en ponctionnant sur des fonds structurels ou en utilisant cette manne pétrolière des dépenses publiques, notamment pour maintenir le pouvoir d'achat de ces ménages. Et ceci entraîne de l'inflation. Donc c'est une forme de surchauffe très artificielle.
Ce que j'ai trouvé intéressant en me renseignant sur le sujet, Julien Vercueil, c'est que je trouvais qu'il y avait énormément de témoignages, notamment d'industriels ou de représentants, on va dire, du patronat, qui tous soulignaient le fait qu'effectivement, en privilégiant les dépenses publiques, finalement, le gouvernement russe décidait de ne pas privilégier les investissements, notamment privés, dans l'industrie. Et tous disent la situation ne pourra pas durer ainsi. Il y a une forme de colère qui monte. Est-ce qu'on peut lui accorder du crédit à cette colère-là de la part des industriels ?
Le pouvoir russe a montré à maintes reprises sa capacité à juguler et à étouffer la colère. Hein. Donc peut-être qu'il continuera de le faire d'une manière coercitive comme il l'a fait jusqu'à présent. Maintenant, ce que l'on voit, c'est que cette colère des investisseurs, elle peut être détournée par le pouvoir sur la Banque centrale de Russie. C'est assez facile, il suffit de dire « Regardez, ils ont des taux d'intérêt qui sont beaucoup trop élevés et ça, c'est ça qui vous gêne. Donc soutenez-nous contre la Banque centrale. » Ça, c'est une première chose. Le deuxième élément qui est plus sérieux, c'est que on a effectivement un déficit d'investissement depuis très longtemps en Russie. C'est un territoire absolument immense, avec des conditions pour les infrastructures qui sont beaucoup plus difficiles que ce qu'on peut trouver en Europe occidentale. Et donc, il y a besoin d'un taux d'investissement, la formation brute de capital fixe divisée par le PIB, hein, un taux d'investissement plus élevé que la moyenne. Or, ce taux d'investissement, il n'est pas atteint. Et ça entraîne ce qu'on peut appeler une érosion lente des infrastructures. Et un exemple, juste pour illustrer ce point, c'est le secteur des chemins de fer, qui connaît depuis 3 ou 4 ans une crise structurelle, liée notamment au fait qu'on lui demande davantage, parce que la logistique des nouvelles opérations de commerce extérieur et des opérations militaires pèse en partie sur ce réseau-là. Et en particulier, les producteurs de locomotives se plaignent de l'impossibilité pour eux de maintenir les cadences et du risque d'une chute du trafic ferroviaire lié à l'insuffisant investissement dans les infrastructures.
Donc on le voit que ça peut avoir des effets en chaîne et surtout sur le moyen voire long terme aussi. On reviendra sur cette question dès lors qu'on se pose aussi la question de comment on finance aussi cet effort de guerre. Finalement, Fanny Coulon, si on reprend notre fil rouge de savoir ce qu'est ou pas une économie de guerre, avec l'exemple russe, on a des taux extrêmement hauts, on n'en a pas parlé, mais il faut le savoir, s'il y a une monnaie, le rouble qui plonge aussi, ça ce sont des signes réels d'une économie de guerre et de fait ça rend difficile la comparaison avec ce qui se passe actuellement en France ou plus largement en Europe. De fait les deux zones, et on pourrait aussi inclure l'Ukraine, les deux zones ne sont pas tellement comparables et si on rajoute en plus le taux de dépenses on va dire pour l'armement et la défense entre ces deux zones-là, rien n'est vraiment comparable, Fanny Coulon.
Absolument pas comparable. Le cas de la Russie, on est dans un effort de guerre qui est vraiment élevé. Et ça fait penser à John Maynard Keynes, l'économiste britannique, qui en 1940 avait publié un ouvrage, une étude sur comment financer la guerre donc pour la Grande-Bretagne, et qui voyait très bien que le principal problème, c'était l'inflation. Et donc, il préconisait de limiter le pouvoir d'achat des ménages, la consommation, de faire de l'épargne forcée pour contrôler l'inflation. Et donc, faire la guerre sans prendre des mesures qui, par nature, sont très impopulaires parce qu'elles diminuent le pouvoir d'achat de la population, c'est très difficile. D'autant plus que la Russie a fait face depuis l'invasion de l'Ukraine à des pertes d'investisseurs étrangers, donc une fuite des capitaux hors de Russie, qui sont autant de manques à gagner pour en matière d'investissement. Donc l'industrie russe a énormément de problèmes de financement et ce conflit enferme l'économie russe aussi dans une spécialisation de produits primaires et d'exportateurs de produits primaires au détriment du développement industriel. Donc voilà.
Donc on voit que la comparaison reste difficile et de fait, l'Europe et la France en particulier ne peut pas être considérée forcément comme une économie de guerre, peut-être comme une économie en guerre. Julien Malizard, ça ne veut pas dire pour autant que la France n'a pas une certaine expérience aussi de cette économie de guerre. On l'a vu, il y a un effort de défense qui est gigantesque pour la Russie. Il est, je crois, de l'ordre de 30% de son PIB. Il devrait passer en 2025 à 40%. Il y a une économie aussi qui souffre de pénurie. Tout ça, ce sont des choses qu'on a connues lors des deux dernières guerres mondiales. Ça permet aussi de mettre le curseur quelque part aussi sur la réalité de cette économie de guerre. Est-ce également aussi le cas pour l'Ukraine ?
Alors, le cas ukrainien, à mon avis, est assez emblématique de ce qu'on a connu dans les pays européens durant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Donc, un aspect, on a parlé d'inflation. Bon, c'est quelque chose qu'on a retrouvé aussi en Ukraine au début de la guerre et qui perdure. Une baisse de la consommation, la population qui est levée en masse pour faire face aux besoins militaires, évidemment. Donc, une force de travail qui diminue. Donc, en gros, une activité économique qui est réduite. Entre 21 et 22 en Ukraine, c'est moins 30% de baisse du PIB. Donc, on est quand même sur une chute massive. Et ça, c'est en gros quelque chose qui est courant avec les économies en guerre, mais on peut dire guerre totale, en fait, quelque sorte. Là, il s'agit vraiment de préserver c'est la survie de la nation qui est en jeu, en fait. Et c'est un point de comparaison, à mon avis, intéressant avec les expériences historiques de la Première et la Seconde Guerre mondiale. En France, durant la Première Guerre mondiale, on était entre 35 et 45% du PIB dans la défense. Donc là, on est quand même assez proche de ce qu'on observe en Ukraine, qui est aux alentours de 35%, avec évidemment, comme pour le cas de la Russie, des indicateurs. Enfin, faut pas prendre les chiffres pour ce qu'ils sont, mais plutôt comme des ordres de grandeur, comme étant quelque chose d'assez flou. Mais en gros, en termes de comparaison historique, on voit qu'il y a un rapprochement qui est ici assez évident.
On parle d'ordre de grandeur, mais on pourrait parler de principes beaucoup plus généraux aussi. Le fait d'être dans une économie extrêmement contrainte, à la fois par l'accès à la matière première, mais aussi de façon très territoriale. C'est aussi avoir potentiellement des bouts de territoire en moins ou occupés. Tout cela, ça joue, alors peut-être pas dans l'immédiat, ce n'est pas forcément mesurable, comme on le disait, par des pourcentages de PIB, mais ça a des effets sur le moyen-long terme, Julien Malizard.
Ça a des effets de toute façon, parce que l'enjeu essentiel pour la mesure du PIB, c'est en gros combien d'heures de travail il y a dans une nation. Donc forcément, s'il y a moins de gens qui travaillent parce qu'il y a plus de monde au front, à un moment donné, ça va finir par se voir de manière statistique. Il y a un aspect aussi important dans cette économie de guerre qu'on retrouve en Ukraine, peut-être moins aussi important que ce qu'on a observé durant la Première et la Seconde Guerre mondiale en Europe, c'est l'idée qu'il y a une forme d'économie planifiée. On est dans une situation de pénurie, comme on a aussi en Russie, hein, quelque part, on retrouve un peu ça. Il y a cette idée donc de puissance publique qui doit intervenir pour juguler la pénurie dans tout un tas de domaines. Et en particulier, orienter les besoins économiques vers la production d'armement, puisqu'une nouvelle fois, il s'agit de la survie de la nation. Et donc là c'est un enjeu qu'on retrouve bien durant la Première et la Seconde Guerre mondiale, le rôle de l'État un peu stratège, qui est ici pour vraiment orienter la production vers l'armement, mais aussi gérer les pénuries le mieux possible dans la sphère civile et sur les besoins les plus élémentaires, évidemment.
Alors justement, vous parlez du rôle de l'État stratège et de cette idée de planification pour faire face à la contrainte, qu'elle soit spatiale en termes de matières premières ou même tout simplement humaine. De ce point de vue-là, on pourrait, alors le parallèle est peut-être extrêmement large, mais on pourrait aussi se dire qu'il y a une forme de tournant en Europe et plus spécifiquement en France. Le 20 février dernier, Emmanuel Macron s'exprimait sur les réseaux sociaux afin d'évoquer de nouvelles pistes pour faire face à la situation.
On rentre dans une époque où chacun d'entre nous doit se demander ce qu'il peut faire pour la nation française et la République. Et donc j'ai besoin de vous, on va peut-être lancer des produits d'épargne et faire appel en effet à la nation pour financer certains programmes. Moi je ne l'exclus pas. Et donc ça, je vais me coordonner avec certains voisins européens, et je pense que c'est une très bonne idée. Mais j'ai besoin de vous aussi, tout de suite, en termes plus concrets, en expliquant, en portant la conscience que vous avez du défi. J'ai besoin de vous, peut-être, si vous y êtes prêts, en rentrant dans la réserve. On a lancé un programme, une réserve, soit auprès de nos armées, soit auprès de notre police, de notre gendarmerie, ou autre. C'est mettre vos compétences au service de nos armées. Mettre vos compétences au service de cette mission de défense et de sécurité nationale.
Fanny Coulon, mobiliser l'épargne, appeler bonne volonté humaine, tout ça sur un espèce de fond d'élan patriotique. Et puis on l'entendait au tout début de l'émission, une mobilisation aussi du tissu industriel. Tout cela ressemble pour le coup à une forme de tournant, pour le coup à une entrée dans une économie de guerre. Est-ce le cas selon vous? Est-ce qu'on en prend en tout cas davantage le chemin plus qu'en 2022 par exemple?
Oui, très, très certainement. C'est vrai qu'on a changé d'époque. On est dans la géopolitique désormais. Est caractérisé par les rapports de force qui s'exercent dans le domaine militaire, enfin où le domaine, on voit que le militaire est au service aussi de l'économie, donc on est dans une reconfiguration en grand bloc antagoniste. Et donc l'Union européenne qui a été la seule région du monde à ne pas avoir augmenté ses dépenses militaires au début des années 2000 et qui a commencé à les augmenter après l'invasion de la Crimée, aujourd'hui elle a besoin de beaucoup d'argent en fait pour le réarmement. Et l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, on a parlé d'un emprunt européen de 500 milliards d'euros, mais il y a des blocages, notamment de l'Allemagne. Alors, on verra avec le changement politique ce que ça va devenir, mais il y a un blocage côté allemand, côté néerlandais. Et donc, du coup, en fait, l'alternative, c'est aussi des emprunts nationaux. C'est ce qui est en train de se dessiner, notamment en France. Mais aussi en Allemagne, on semble aussi de discuter autour de contourner ou lever le frein de la dette constitutionnelle en Allemagne. Mais l'idée, ça serait d'emprunter de l'argent, de mobiliser l'épargne nationale au service de la défense dans la tradition. Il y a eu, je crois, pendant la Première Guerre mondiale, entre 1915 et 1918, il y a eu 4 emprunts de guerre. Alors là, c'était en plein conflit, hein, au moment de la guerre totale, mais qui ont fait appel au patriotisme avec beaucoup de discours mobilisateurs. Donc là, on est dans une époque qui a complètement changé. C'est le retour des rapports de force et c'est la fin de la globalisation heureuse, qui est finie depuis longtemps, hein, et du multilatéralisme, en tout cas temporairement.
Alors, vous le disiez à l'instant, Fanny Coulon, peut-être que les choses sont en train de changer, en tout cas un nouvel horizon potentiellement apparaît, puisque Friedrich Merz a dit qu'il entendait se libérer des formes de marge de manœuvre budgétaire pour financer le réarmement de son pays. Il fait notamment faire voter un fonds spécial de 200 milliards pour l'année, puis lever les fameuses règles budgétaires qui freinent de fait les dépenses. Alors Ursula von der Leyen, elle, devrait présenter le 19 mars son livret blanc sur la défense, mais elle a d'ores et déjà indiqué le 14 février dernier que les États membres peuvent demander un traitement budgétaire de faveur pour leurs dépenses de défense. Décidément, c'est compliqué à prononcer. Très concrètement, Julien Malizard, est-ce que c'est vraiment ces règles-là qui empêchaient les États de dépenser? Est-ce que c'est juste une histoire véritablement de cette fameuse règle d'or? Ou est-ce qu'il y a d'autres, peut-être d'autres freins qui empêchaient tout à fait de faire cet arbitrage?
En fait, on est sur des, en moyenne, des efforts de défense en Europe qui sont autour de 2%. Donc, quand bien même on enlèverait 2% du montant, alors sur un déficit, en fonction des années, ça peut être important, mais en cumulé, les performances, les grandeurs macroéconomiques en termes de déficit d'aide publique vont pas changer de manière drastique parce qu'on aura retiré les dépenses de défense du calcul. Certains parlent plutôt aussi les dépenses d'équipement au sein des dépenses de défense, parce que du coup, on voit bien que c'est plutôt cet enjeu-là, du réarmement qui importe plus que la masse salariale pour les personnels des forces armées. Et donc, je suis pas certain que ça soit ça le frein essentiel. Par contre, on peut se dire que effectivement, les critères budgétaires pendant une grande période, et en particulier dans les années 90 de préparation de l'entrée à l'Union européenne et après, en fait, ont été des freins dans le montant de dépenses. C'est-à-dire que, à l'inverse, les contraintes budgétaires ont vraiment eu un effet majeur sur l'évolution des dépenses militaires européennes. Et ça s'est très bien vu donc dans les années 90, et ça s'est vu aussi dans la période post-crise des subprimes, enfin crise de la dette 2011-2012. Où là, en fait, les pays européens ont passé à la moulinette leurs dépenses d'armement, considérant que c'était pas aussi stratégique que d'autres formes de dépenses publiques. Et donc là, il y a vraiment eu cet effet plutôt inverse, en fait.
Alors, vous venez d'évoquer ces restrictions, finalement, budgétaires qui ont, de fait, mené aussi, quelque part, la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Je vous propose d'écouter un petit résumé, on va dire, de ces années 90, où, justement, la question de la défense posait particulièrement problème.
Je crois vraiment que ce budget, difficile à établir, l'a été équitablement.
François Mitterrand, le 29 novembre 1988.
Entre les budgets civils et le budget militaire. Cela représente une très lourde charge. Un gouvernement doit toujours choisir. Les missions de la défense nationale sont respectées, pour la marine notamment.
On a le droit et le devoir de s'interroger actuellement. Est-ce que nous ne sommes pas en train de commettre les mêmes erreurs qui nous ont conduits en 1940?
Le général André Dubroca, le 6 avril 1989.
Je n'irai pas jusque-là, mais il y a des doutes et il y a certainement des erreurs, des défaillances contre lesquelles il faut lutter.
Notre défense antiaérienne est très vulnérable.
Absolument sous-développée. Les bases aériennes, 18 à 20 bases qui sont utilisées en permanence, sont sous-développés, il y a à peu près la moitié des bases qui ne sont pas équipées de missiles solaires. S'il y avait une guerre surprise, ce que je n'espère pas, bien entendu, nos 450 heures de combat, je ne suis pas certain qu'ils résisteraient longtemps, et en tous les cas, en totalité, qu'ils pourraient tous décoller.
Des Jaguars fatigués, sans radar, qui ne peuvent donc pas attaquer la nuit.
Reportage d'Antenne 2, le 6 avril 1991.
Des chars AMX-30, les plus vieux et certainement les plus vulnérables du champ de bataille. Des régiments qu'il a fallu professionnaliser en catastrophe pour qu'ils puissent partir dans le Golfe. Un porte-avions transformé en porte-camion ou porte-hélicoptère, et surtout un état-major français privé de moyens d'observation autonomes, donc presque entièrement dépendant des satellites américains. L'expédition française en Arabie Saoudite a révélé de nombreuses carences dans notre politique de défense. Le manque de décision politique, la réduction du budget, l'étalement des programmes et le poids du lobby industriel sont apparus en vraie grandeur.
Sur 409 hélicoptères, à l'heure actuelle, un maximum de 200 hélicoptères peuvent voler.
Reportage diffusé sur TF1 le 25 juillet 2002.
Essentiellement pour des problèmes de taux de disponibilité.
C'est un petit peu le fait révélateur de cette année 2002. Le vieillissement des machines, mais surtout cette pièce incriminée, qui a fait, de manière plus conséquente, baisser la disponibilité de magasins.
Voilà, on entendait là un mash, comme on l'appelle, depuis les années 90 jusqu'au tout début des années 2000. On l'a compris grâce à vous, Julien Malizard, et vous, Fanny Coulon. Il y a eu une forme de désinvestissement vis-à-vis de la question budgétaire de la défense et de l'armement. Est-ce qu'on peut véritablement, Fanny Coulon, le reprocher qu'en cas d'arbitrage budgétaire nécessaire, on a commencé cet extrait sonore par François Mitterrand et donc les temps de la rigueur, est-ce que en temps de paix, de fait, il n'est pas un peu naturel que de faire ce sacrifice-là? Est-ce que ce n'est pas là, finalement, le mur auquel se heurte toute forme de planification? On en parlait, c'est important d'avoir cet État aussi qui a une forme de vision pour parler véritablement d'une économie de guerre. Mais est-ce que on peut vraiment le reprocher dans le sens où, en temps de paix, il n'est pas forcément nécessaire de se constituer énormément de stocks non plus?
Oui, non, mais c'est sûr que C'est difficile dans des pays démocratiques d'imposer une hausse des dépenses militaires et de les faire passer au Parlement. Hein, on s'en rend compte. Alors, d'autant plus que l'Union européenne est avancée, divisée politiquement sur cette question. Donc, en fait, il n'y avait pas d'unité comme, par exemple, aux États-Unis où il y a un complexe militaro-industriel très fort. Les Américains, c'est plus du tiers des dépenses militaires mondiales. L'Union européenne, si on la prend comme un tout, c'est la deuxième puissance militaire mondiale, hein, devant la Chine. Mais en fait, justement, il faut arriver, ce qu'on n'a pas réussi jusque-là, à penser la défense européenne comme un tout et à essayer au maximum de favoriser l'interopérabilité et d'arriver à harmoniser les forces pour pouvoir justement présenter une défense européenne solide. Mais c'est vrai qu'en temps de paix, mais ça s'est vu aussi dans les années 30, en fait, dans les années 30, ça a été extrêmement difficile de remettre en marche l'industrie d'armement. Et en fait, c'est seulement à partir de 1939 qu'en France, malgré les efforts notamment du Front populaire en matière de budget de défense, hein, qui avait paradoxalement diminué les dépenses sociales pour augmenter les dépenses militaires en 1936, il y a eu énormément de mal à remettre en route l'industrie d'armement, parce que c'est souvent quand même assez compliqué en temps de paix d'arriver à augmenter la production d'armement.
Ce qui est intéressant, c'est que pendant ce temps-là, Julien Vercueil, du côté de la Russie, les choses se passent très différemment. Comment expliquer qu'il y ait un décalage aussi grand aujourd'hui entre les stocks, on va dire, et puis la capacité aussi à se réarmer européenne, et puis la capacité russe, pour le coup, en termes de défense militaire? Très concrètement, cette marche aussi haute, on va dire, la Russie ne l'a pas vraiment connue au moment du démarrage, on va dire, du conflit.
Mais je pense qu'on a intérêt, puisque vous êtes remonté jusqu'aux années 80 et aux présidents François Mitterrand, pour ce qui concerne le complexe militaro-industriel russe, à remonter loin aussi. Et je pense que ça a une certaine vertu, parce que ça permet de montrer comment se délite et se reconstruit un ensemble militaire, industriel, à une vitesse relativement élevée, puisqu'il s'agit de deux générations. Donc la première étape, c'est l'étape du délitement, qui commence en fait dans les années 70 pour l'Union soviétique, et qui est accélérée dans les années 80 avec la perestroïka de Gorbatchev, où les questions budgétaires deviennent de plus en plus prégnantes, la stagnation pèse sur les budgets de défense. Face à cela, les États-Unis de Reagan intensifient leurs dépenses militaires, et on sait que c'est l'une des raisons qui est souvent avancée du délitement du bloc soviétique, le fait que l'Union soviétique n'ait pas réussi à suivre cette course aux armements dans les années 80. Et puis intervient la dislocation de l'Union soviétique en 92 et la grande transformation de l'économie russe, d'une économie qui était planifiée. Alors, pour le coup, ce serait intéressant de revenir sur les origines de la planification en Allemagne et en Russie au début du XXe siècle, pour voir comment c'est très très lié à l'économie de la guerre. La Russie, à ce moment-là, bascule de manière extrêmement rapide et violente dans une économie de type capitaliste, une économie dans laquelle ce sont les forces du marché qui vont dominer. Et là, on a en fait une poursuite de ce délitement. On entendait dans l'extrait que vous avez présenté des généraux se plaindre de la faible disponibilité de leurs équipements, mais il se trouve que je lisais ce matin exactement le même type de complainte dans les années 90 de généraux russes qui disait que un général de l'armée de l'air russe qui disait que en 1992-93, il avait environ 30% de ses avions qui ne pouvaient pas décoller sur la région de Moscou et de ses avions de chasse et 50% de ses avions de transport. Parce que il n'était pas en état de voler. Donc on a un délitement de l'entretien et de la production. La production industrielle d'armement en Russie, entre 1991 et 1995, a chuté de plus de 90%. Donc il y avait des stocks, évidemment. Mais la production, les flux de production se sont complètement effondrés. On avait une chute générale de l'activité d'environ 40%, mais la production de l'armement était deux fois plus importante. Alors c'est à partir de cet état tout à fait éthique, en fait, du complexe militaire-industriel, que la Russie a reconstruit, à partir de 2000 et l'arrivée de Vladimir Poutine, un complexe militaire-industriel très progressivement, avec des taux de croissance des dépenses qui sont extrêmement élevés, 20-30% par an, mais à partir d'une base qui était extrêmement maigre. Et donc, cela, ça a été permis par la croissance économique très forte des années 2000. Qui a plus que doublé le produit intérieur brut de la Russie dans la période. Et ça a dégagé des marges de manœuvre pour pouvoir remettre en route cette industrie. Et ensuite, il y a eu des opérations industrielles. Par exemple, la création de Rostec, qui est la grosse holding d'État qui chapeaute un ensemble de productions militaires et technologiques et qui, en 2018, a intégré l'industrie de l'aéronautique également. Et donc ça, c'est à la fois des conditions macro, qui permettent de dégager des fonds pour financer cette production, à la fois une vision de long terme de reconstitution du capacité de souveraineté militaire et économique de la part de quelqu'un qui est au pouvoir et qui entend le rester et qui est resté pendant une vingtaine d'années, et puis également une politique industrielle, c'est-à-dire l'idée de concentrer les moyens sur un certain nombre d'acteurs que l'on va privilégier. C'est ça qui a reconstitué la capacité militaire de la Russie en une vingtaine d'années.
Et ce qui amène aussi à cette boucle qu'on évoquait un peu plus tôt dans l'émission, que finalement cette économie de guerre, cette entrée dans l'économie de guerre porte aussi quelque part la croissance, puisque c'est de la production russe sur le territoire russe qui bénéficie de fait au territoire russe, Julien Vercueil.
Et là, il y a un point quand même qu'il faut qu'on souligne, s'il s'agit de comparer la situation de l'économie russe avec celle de l'Ukraine, c'est que les destructions se font sur le territoire ukrainien. Et donc, s'il y a une chute de 30% en 2022 de l'économie de l'Ukraine, c'est aussi parce qu'il n'est plus possible d'investir, il n'est plus possible de produire dans toute une partie du territoire, parce qu'on est en train de détruire des choses. Alors que pour la Russie connaît une chute de son produit intérieur brut, mais beaucoup plus faible, parce que sur son territoire, il n'y a pas de destruction.
Une chute du produit intérieur brut qui devrait s'accentuer tout de même en 2025, mais là encore les chiffres, il faut être très, très prudent avec, on l'a bien compris. Julien Malizard, ce qu'on comprend aussi, alors encore une fois, comparaison n'est pas raison, mais on a quand même cette idée que parce qu'il y a ce complexe industrielo-militaire qui est très fort, qui a été reconstruit aussi grâce à, enfin, on va dire en fonction d'une vision aussi des membres du gouvernement, là où la plupart des États membres de l'Union européenne ne l'avaient pas, ou en tout cas ne voyaient pas la nécessité d'investir et de produire en temps de paix, finalement c'est aussi cela qui explique qu'aujourd'hui, même si on tente de relancer les chaînes de production, d'augmenter les cadences, etc., ce n'est pas forcément encore une économie qui bénéficie, qui ruisselle, comme on dit aussi, en termes de croissance pour ses États membres. On est un peu, à partir du moment où on n'a pas assez de stock, on se dit, assez nécessairement, on va devoir acheter ailleurs, se fournir ailleurs, et notamment en termes de sous-traitance et de composants. Est-ce que c'est ça aussi une des difficultés aujourd'hui de cette industrie militaire ?
Un des aspects majeurs, c'est qu'il y a des contraintes liées à... C'est une forme de monopsone. Donc, il n'y a que l'État qui achète. Et donc, à partir du moment où aujourd'hui on a des États, principalement à l'Europe de l'Ouest, là où sont localisées les principales industries européennes, qui ont des volumes de commandes qui sont faiblards par rapport à ce qui se passe à l'Ouest de l'Europe, ces pays-là, forcément, à un moment donné, ils ont une contrainte. Ils veulent des équipements et il y a un critère d'urgence. C'est un critère qui n'existait pas avant 2022. Et ça, c'est aussi un des aspects liés à la guerre en Ukraine, c'est l'adaptation de l'outil industriel qui devient urgente parce que les besoins deviennent urgents. Auparavant, et c'est un des aspects dans le document sonore que vous avez passé, c'est qu'en fait, on voit bien qu'on est sur un critère d'urgence relativement moindre. Et donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez étaler des commandes, vous pouvez prendre votre temps. Au lieu de produire en un an un avion, vous prenez 18 mois et que sais-je. Et donc, en fait, on se retrouve aujourd'hui dans un format des industries européennes et en particulier en Europe de l'Ouest, qui est strictement déterminé par ce qui s'est passé par les investissements d'il y a 20 ou 30 ans. Vu la longueur des cycles de production, c'est en fonction du niveau de complexité technologique, il faut entre 15 et 20 ans pour développer un produit, et après il va être dans les forces pendant plusieurs décennies. Donc forcément, ça se pense sur un temps extrêmement long, d'où la logique de planification aussi dont on a parlé tout à l'heure. Et donc un des aspects ici essentiels de l'enjeu européen, mais aussi français, c'est que en fait, l'adaptation de l'outil industriel passera par, en gros, des nouveaux besoins. Ces nouveaux besoins, aujourd'hui, ils n'existent pas pour l'industrie de défense française, par exemple. On n'a pas beaucoup plus de commandes qui est promue par la programmation militaire. Donc, en fait, l'adaptation industrielle, elle va être lente. Et alors qu'aujourd'hui, les besoins sont urgents. Donc, il y a un hiatus, en fait, aujourd'hui, entre ces besoins et les commandes qui sont... limité à l'échelle des pays d'Europe de l'Ouest.
C'est ce que j'allais vous demander, Julien Malizard. Donc, quand on apprend que le Sénat a adopté le budget de la défense en hausse de 3,3 milliards d'euros conformément à cette fameuse trajectoire de la programmation militaire 2024-2030, quand on apprend aussi que Sophie Primas, la porte-parole du gouvernement, avait déclaré le 19 février que le budget de la défense devrait encore augmenter alors que les dépenses vont déjà doubler d'ici 2029, en fait, ce ne sont pas tant des bonnes nouvelles que ça. Enfin, en tout cas, ça ne change pas fondamentalement la donne.
En fait, la loi de programmation militaire, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un volume d'augmentation. Enfin, il y a un aspect budgétaire qui est très clairement annoncé et globalement, effectivement, il y a en valeur nominale, il y a une augmentation assez substantielle. Alors une fois qu'on a enlevé l'inflation, on se rend compte que l'augmentation elle est plus aussi impressionnante que ça. Et donc en fait, dans son autre volet qui est le volet capacitaire. Dans chacun des postes, il n'y a pas forcément beaucoup de commandes supplémentaires. Il y a des domaines qui ont été privilégiés. On l'a vu avec la guerre en Ukraine, les missiles, les munitions, les obus, l'artillerie. Mais en dehors de ces domaines-là, il n'y a pas de commandes majeures. Et donc là, on voit bien que depuis quelques semaines, l'exécutif en France nous dit « Ah là là, il va falloir augmenter encore davantage votre programmation militaire. » Et parce que, en fait, aujourd'hui, la programmation militaire ne permet de préserver que le socle existant du format des armées, avec les composantes de la dissuasion et les forces conventionnelles. Mais avec une forme de renouvellement générationnel des équipements, mais sans augmentation quantitative. Donc on n'aura pas plus d'avions, de chars, de frégates. Et donc là, c'est un des enjeux futurs. C'est en gros, si on veut aller au-delà, si on considère qu'il faut plus de matériel, plus d'hommes aussi accessoirement, ce qui est un autre sujet sur la ressource humaine, bah, il va falloir augmenter davantage pour financer tout ça. Ou alors renoncer à la technologie. Mais c'est un autre problème.
Donc il y a à la fois le sujet du financement et le sujet de la commande. Fanny Coulon, si on veut essayer d'être constructif et de voir des solutions, on pourrait se dire, voilà, si le problème c'est aussi celui de la vision, et a fortiori sur le long terme, face à une menace qui concerne l'intégralité de l'Europe, on pourrait envisager un système de commande européen. On pourrait se dire que c'est une façon de contourner les difficultés. Est-ce envisageable, Fanny Coulon ?
Oui, mais déjà au niveau national, il y a quand même eu des augmentations de commandes hein, qui ont presque doublé à 20 milliards en 2023. Elles étaient autour de 10 milliards, je pense, précédemment. Donc il y a quand même une hausse des commandes et des mesures de demande, par exemple, de prioriser la production de missiles Aster ou d'augmenter les cadences pour la production d'obus, de bombes, etc. Et puis le ministre de la Défense, là, je crois, récemment, a parlé de la nécessité d'avoir plus de frégates et une trentaine de rafales supplémentaires. Donc, il y a quand même une volonté d'augmenter le budget de défense français et les commandes aujourd'hui. Et ce qui est sans doute... Voilà. Alors après, au niveau européen, il y a des solutions qui existent, mais qui ne sont pas encore assez financées, et notamment le fonds européen de défense. Mais aujourd'hui, l'armement, en fait, pour conclure, parce que je pense que c'est bientôt la fin de l'émission, en fait, je pense que le risque de lâchage américain peut être une bonne nouvelle pour l'industrie d'armement européenne, dans la mesure où ça force les États européens à se mobiliser pour réindustrialiser dans ce secteur et pour approvisionner, pour sécuriser les approvisionnements de matières premières stratégiques. Donc c'est une sorte de réindustrialisation à marche forcée qui implique aussi de repenser tous les aspects de la souveraineté européenne et notamment la dépendance, par exemple, aux géants de l'Internet américain, etc. Donc cette phase de crise peut faire avancer l'Europe sa souveraineté de façon très importante.
Julien Vercueil, et peut-être effectivement pour retomber sur ces problèmes de financement. On l'a dit, en Europe, le problème se pose de différentes façons. Il y a à la fois la vision, on va dire, de planificatrice, évaluer les besoins et passer les commandes au bon moment. Il y a où trouver l'argent de façon générale. Très concrètement, en Russie, comment ça se passe? Est-ce que là encore, on est à une forme de point de tournant? Est-ce que le financement, finalement, de cet effort de guerre, qui, on l'a dit, représente 30 et puis bientôt 40% du PIB russe, vous me faites environ avec les mains, je le dis aux auditeurs, aux auditrices, vous allez pouvoir réagir, mais très concrètement, comment fonctionne ce financement? Est-ce qu'il y a une forme d'assèchement potentiel qui pourrait advenir en Russie après 30 ans de guerre?
Oui, alors déjà sur l'ordre de grandeur, je pense qu'il est légèrement surestimé. Hein, donc,
là encore, c'est un message qui est envoyé.
On pourrait discuter sur ce point-là. Mais maintenant, s'il s'agit du financement, peut-être partir du fait que l'État russe est faiblement endetté, ce qui est un point qu'il souligne souvent, qui a une effectivité, c'est-à-dire que effectivement, ça a été une politique de ne pas endetter l'État russe outre ce qui était nécessaire.
Une politique ou une contrainte, parce que
une politique parce que pendant longtemps, depuis 2004 jusqu'à 2014, pendant une dizaine d'années, il était tout à fait possible à la Russie d'aller emprunter sur les marchés internationaux de capitaux, ça n'aurait pas posé de problème. Ça n'a pas été fait parce que c'était la volonté expresse de Vladimir Poutine de ne pas dépendre de financements étrangers. Et puis parce qu'il y avait la possibilité de continuer à croître grâce en particulier à la bonne utilisation, une utilisation rationnelle de la manne pétrolière, de la manne pétrogazière qui n'a pas cessé d'affluer pendant toute cette période-là. Alors, dans ce cadre-là, vous avez eu un déficit budgétaire qui a été très limité et qui l'est encore aujourd'hui pendant la guerre. Mais pourquoi l'est-il ? Parce qu'on a utilisé les fonds souverains qui avaient été accumulés dans les années précédentes pour abonder le budget. Et là, on arrive à un point de limite qui est, est-ce qu'on n'a pas touché la totalité des actifs liquides de ce fonds ? On est sans doute assez proche de ce point-là. Et c'est un problème pour le pouvoir russe actuel.
Reste à savoir quelle solution sera trouvée, si des bons pourraient être émis de la même façon que non, me dit Julien Vercueil, mais nous aurons sans doute l'occasion de revenir sur ce large sujet. Merci infiniment à tous les trois, Julien Malizard, Julien Vercueil et Fanny Coulon, d'avoir participé à cette émission.